de Jean-Baptiste Marot. Bonne journée à tous, 10h10 à Paris.
Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose Appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue si vous nous rejoignez, merci d'être avec nous, très heureux de vous retrouver. L'antenne vous appartient comme tous les jours, vous le savez, RFI vous donne la parole pour commenter l'actualité. Et ce matin, eh bien, nous lancerons le débat sur l'expulsion du chef du bureau des droits de l'homme des Nations Unies en République démocratique du Congo. Scott Campbell a été déclaré persona non grata par les autorités, il a donc dû quitter le pays vendredi soir. Kinshasa, je vous le rappelle, lui reproche la publication d'un rapport dénonçant des bavures policières lors d'une opération coup de point pour traquer les délinquants de Kinshasa, les délinquants de la capitale. Selon ce document, au moins 9 personnes ont été exécutées par balle et 32 autres sont toujours portées disparues. Pour le gouvernement, eh bien, ce rapport est tout simplement un document partisan. Le chef du bureau des droits de l'homme de l'ONU s'est accusé de dénigrer systématiquement la République démocratique du Congo. On se souvient qu'en avril dernier, Scott Campbell avait également déjà publié un rapport sur les violations sexuelles dans ce pays, rapport qui avait défrayé la chronique sur place. Alors que pensez-vous de cette expulsion ? Dites-nous quelle doit être évidemment la réponse de l'ONU. En tout cas, hier, Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, a prévenu que le Conseil de sécurité étudiait d'éventuelles mesures sans toutefois les détailler. On en parlera ensemble, ce sera dans une demi-heure sur l'antenne d'RFI. D'ici là, évidemment, vous nous rejoignez, vous nous appelez 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous nous appelez de France et vous continuez sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, plus de 300 messages postés sur la page Facebook avec des avis tranchés sur cette expulsion. J'en lirai évidemment quelques-uns tout à l'heure pour alimenter le débat. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction d'RFI. Vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Plusieurs questions évidemment depuis quelques jours au standard sur le retour de Marc Ravalomanan, l'ex-président malgache est de retour chez lui. Bonjour Hervé.
Bonjour Juan, bonjour député de RFI.
On vous écoute, soyez le bienvenu, vous nous appelez de Douala au Cameroun.
C'est tout à fait. Bon, Juan, j'ai entendu que l'ancien président malgache était de retour dans son pays. Alors, je voulais savoir pourquoi a-t-il décidé de rentrer et quel était son intérêt à faire ce comeback ?
Ah, bonne question. C'est vrai qu'il n'était pas revenu dans son pays depuis qu'il avait été renversé en 2009. Bonjour Marie Audran.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la correspondante de RFI à Madagascar. Alors, il est rentré et c'est vrai que les conditions pour l'instant, les conditions de son retour sont floues.
Oui, il est difficile de savoir exactement pourquoi il est rentré maintenant et pas il y a 2 mois ou bien dans 3 semaines. Alors, est-ce parce qu'il y a eu un accord avec les autorités malgaches pour le laisser rentrer ? C'est d'abord ce qu'on était tenté de croire, d'autant qu'il y avait des discussions depuis plusieurs mois sous l'égide de la SADC, la Communauté de Développement d'Afrique Australe. Mais le président de la République, Erazan Harmapian, a aussitôt nié. Il a affirmé qu'il n'était pas du tout au courant de ce projet de retour. Et la communauté internationale, logiquement, lui a emboîté le pas et a critiqué un retour fait sans concertation. Lui-même, Marc Ravalomanana, quand il est arrivé lundi dernier, n'a pas voulu donner de détails sur son retour. Il a affirmé qu'il était rentré tout seul et que s'il était rentré, c'était pour participer au développement de Madagascar. Il rentre au pays à un moment où le président Erazan Harmapian est en difficulté. Cela va bientôt faire 1 an qu'il a été élu et la situation économique et sociale est encore très critique. Les pays ne redémarrent pas, il y a de gros stages dans tout le pays. On peut penser que Ravalomanana ait choisi ce moment pour jouer les hommes providentiels. Son intérêt, c'est de retrouver une place sur l'échiquier politique, car même s'il tirait les ficelles depuis l'Afrique du Sud, il était forcément en retrait et dépendait de ses représentants ici à Madagascar. Il a aussi son empire agroalimentaire, ses entreprises laissées à l'abandon depuis 2009 et qu'il voudra sans doute redémarrer.
J'espère que le réseau sera avec nous jusqu'au bout de vos explications, Marie Audran, puisque la liaison se dégrade quelque peu. Il est rentré effectivement, il est rentré maintenant. Il faut quand même préciser, Marie Audran, qu'il y a eu une brèche dans le système qui l'empêchait de rentrer. Depuis le 2009, il a essayé à plusieurs reprises de mettre fin à son exil sud-africain.
Oui, depuis 2009, on peut dire qu'il a passé son temps à réclamer et à annoncer son retour. Il s'est entouré de conseillers et d'avocats qui ont fait un lobbying intense auprès des organisations internationales et sud-africaines pour qu'elle l'aide à rentrer. Sous le régime de transition en 2011, puis en 2012, il a essayé par deux fois de prendre un avion pour Antananarivo. La première fois, il n'a pas eu l'autorisation d'embarquer suite à une note des autorités malgaches. Et la deuxième fois, l'avion de ligne a dû même faire demi-tour alors qu'il était déjà dans l'espace aérien. Les autorités lui avaient interdit d'atterrir. Cette fois, il a changé de stratégie, il a choisi la discrétion en rentrant par un avion privé. Donc effectivement, s'il est rentré maintenant, c'est qu'une brèche s'est ouverte et qu'il a pu s'y engouffrer.
D'autres questions, toujours sur le retour de Marc Ravalomanane à Madagascar. Bonjour Maki.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez de Conakry en Guinée, soyez le bienvenu.
Ok, merci. En fait, Madame Lebrun, comme le précédent auditeur, j'aurais des questions sur le Madagascar aussi. Premièrement, j'aimerais savoir quelle est la raison de l'arrestation de Marc Ravalomanane. Et secondo, quelles conséquences, son retour pourrait-il avoir sur la vie politique au Madagascar?
Alors, arrestation. Marie Audran, s'agit-il d'une arrestation ou d'une mise en sécurité? La question fait débat en ce moment à Madagascar. Une chose est sûre, c'est que Marc Ravalomanane n'est pas libre de ses mouvements.
Oui, en effet. Alors, officiellement, il a été placé en résidence surveillée pour la protection de sa sécurité et de la sécurité publique. C'est la raison invoquée depuis une semaine par les autorités. La présidence a expliqué que Marc Ravalomanane a de nombreux ennemis qui en veulent à sa vie et que sa présence à Antananarivo risquerait de troubler l'ordre public. L'ex-président, dès son arrivée lundi, a donné une conférence de presse où il a critiqué sévèrement le pouvoir, il a mis en doute sa légitimité, il a affirmé qu'il n'attendrait pas les prochaines élections en 2018 pour agir et que le peuple savait ce qu'il avait à faire.
Oui, il a même déclaré, les propos sont quand même assez surprenants, il a déclaré « Si j'étais président en exercice quand j'ai quitté le pouvoir, maintenant que je suis de retour, le peuple malgache sait ce qu'il a à faire ».
Oui, alors pour la présidence, il s'agissait là de graves provocations et presque d'un appel à un soulèvement. En revanche, les partisans de Ravalomanane, eux, affirment que ça n'était pas un appel à faire un coup d'État, qu'il n'était pas rentré pour renverser le pouvoir, et eux, ils dénoncent une arrestation arbitraire. Il faut dire, vous l'avez dit aussi, que les autorités précisent toujours qu'il ne s'agit pas d'une arrestation, mais d'une mise en sécurité. Alors elle fait sans doute cette précision lexicale pour justifier la durée extrêmement longue de cette privation de liberté. Ça ne peut pas être une garde à vue qui dure une semaine. Par ailleurs, je rappelle que Marc Ravalomanane a été condamné plusieurs fois par contumace, par la justice malgache. Mais ce n'est pas aujourd'hui la raison de son arrestation. Ce n'est pas non plus son retour illégal. Les autorités l'accusent d'être entré dans le pays sans autorisation, à l'insu de tous les radars.
Ouais, sans autorisation et, dit-il, le principal concerné, l'ex-président, sans passeport. Maki nous demandait également quelles peuvent être les conséquences de son retour sur la vie politique. Une chose est sûre, c'est que ce retour embarrasse clairement le gouvernement.
Oui, la première conséquence, ça a été la scission entre le pouvoir et la mouvance Ravalomanane. Il y avait en effet une grande coalition. L'ancien président soutenait le régime et ses 21 députés faisaient partie de la coalition à l'Assemblée nationale pour constituer la majorité présidentielle. La semaine dernière, ils ont quitté cette majorité pour basculer dans l'opposition. Donc cela affaiblit le gouvernement, qui fait déjà l'objet de beaucoup de critiques dans ses rangs, et cela rend la situation politique encore un peu plus instable.
Vous souhaitez commenter le retour de Marc Ravalomanane, on pourra évidemment en parler vendredi dans la Libre Antenne. Maki, est-ce qu'on a répondu à vos questions?
Évidemment, Juan, je compte remercier les bras alors.
Merci. Et on remercie surtout Marie Audran, correspondante d'RFI à Madagascar. Vos questions à la rédaction, pour mieux comprendre l'actualité, il est 10h19 ici à Paris, 8h19 en temps universel, 33 9 693 693 70. Nous accueillons Abdoulaye, bonjour.
Alors bonjour Juan, bonjour auditeur de la RFI.
Vous nous appelez de Sikasso, vous êtes au Mali et vous avez des questions qui concernent votre pays puisque vous souhaitez en savoir davantage sur les relations, on va le dire, tendues entre le Mali et le Fonds monétaire international.
Oui, Juan. Le mois passé, le FMI a décidé de débloquer les prêts accordés au Mali. Ils sont suspendus dû au manque de transparence du gouvernement. Mais moi, j'aimerais savoir sous quelles conditions le FMI et le gouvernement se sont-ils mis d'accord?
Alors, c'est vrai que le FMI a effectué récemment une mission d'évaluation au Mali et durant 2 semaines, les enquêteurs du FMI ont épluché les audits et ils ont constaté des problèmes de transparence, notamment concernant l'achat de l'avion présidentiel et également un contrat militaire. Bonjour David Baché.
Bonjour Juan, bonjour Aboulaye, bonjour à tous.
Vous êtes l'un des correspondants des RFI à Bamako, au Mali. D'abord, avant de répondre précisément à la question d'Aboulaye, une précision, le FMI n'a pas encore débloqué les crédits au Mali.
Exactement, cette décision, il n'y a que le conseil d'administration du FMI qui peut la prendre, et ce conseil d'administration, il doit se réunir dans le courant du mois de décembre. Cela dit, il est vrai que la mission d'évaluation qui s'est rendue au Mali fin septembre a déjà annoncé que ses conclusions étaient positives et que donc cela ouvrait la voie à une reprise des versements, une reprise donc qui doit encore être actée.
D'accord. En tout cas, la question que nous pose Aboulaye est évidemment pertinente, puisque effectivement, le FMI et les autorités maliennes se sont mis d'accord sur un certain nombre de points.
Absolument. Et la première chose, c'est que le budget malien a été régularisé. L'achat de l'avion présidentiel pour 30 millions d'euros avait été réalisé hors budget. Ça veut dire que cette dépense n'était pas prévue. Une loi de finances rectificative a donc été adoptée à la demande du FMI. Certaines dépenses inscrites dans le budget malien ont donc été annulées pour permettre de financer l'achat de l'avion. Il s'agit en fait de forcer Bamako à assumer son choix et à financer l'achat de cet avion plutôt qu'à financer d'autres mesures. Mmh. Ensuite, lors de sa mission du mois de septembre, le FMI a découvert que le ministère de la Défense avait encore passé d'autres contrats, beaucoup d'autres contrats, pour un montant de 134 milliards de francs CFA, alors que dans la loi de finances, seuls 34 milliards de crédits étaient prévus. Donc là encore, il a fallu trouver des solutions pour intégrer tout ça au budget. Annulation des contrats qui n'étaient pas encore lancés, limitation des contrats existants à ce qui était déjà livré et révision à la baisse des prix de certains contrats qui étaient à l'évidence surfacturés. Reste après tout ça 30 milliards de francs CFA hors budget, donc une nouvelle loi de finances rectificative doit encore être adoptée pour acter ces modifications et pour lancer un emprunt qui permettra de financer toutes ces dépenses.
Ouais, donc si je comprends bien David Baché, toutes ces décisions, elles permettent finalement de rentrer, on va dire, dans les clous, question budget, mais elles doivent, j'imagine, aussi corriger certains manquements, certaines malversations.
Absolument. Qu'il s'agisse de l'achat de l'avion présidentiel ou du contrat d'équipement de la défense à 105 millions d'euros ou encore de tous les autres contrats passés par la défense cette année, de graves malversations ont été révélées, des intermédiaires payés très cher alors qu'ils sont inutiles. Pire qu'inutile, ils se sont même rendus coupables d'utilisation frauduleuse de l'argent public à des fins privées et ils se sont aussi livrés à des surfacturations. L'exemple le plus significatif qui a marqué les esprits, ce sont des chaussettes facturées 10 000 francs CFA, 15 euros pièce. Donc le FMI et Bamako se sont mis d'accord pour finalement se passer de ces intermédiaires pour ne pas payer les sommes surfacturées, pour annuler certains contrats. Bref, point par point, il y a eu des corrections, on va dire.
Ouais. Et est-ce qu'il y a eu des sanctions exigées par le FMI ?
Alors non, le FMI n'a rien négligé de tel, mais les autorités maliennes se sont engagées à prendre les dispositions judiciaires qui s'imposent, et ce processus, ça, c'est une demande du FMI, doit faire l'objet d'une publication. C'est-à-dire que le gouvernement devra faire état publiquement des procédures engagées, ce qui ne dit pas quelles seront ces procédures, ni quand elles seront lancées, ni qui elles viseront. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que le procureur général près la cour d'appel de Bamako, Daniel Tessougué, a déjà demandé l'ouverture d'une enquête préliminaire sur ces deux affaires. Et au terme de cette enquête judiciaire, des procédures individuelles pourraient être lancées. Ouais. Dans le même esprit, le vérificateur général du Mali, c'est une institution indépendante qui contrôle les dépenses publiques. Donc le vérificateur général du Mali et la Cour suprême ont réalisé des audits sur ces dossiers. Ils l'ont fait à la demande des autorités maliennes, qui ont elles-mêmes satisfait à une demande du FMI. Eh bien, ces deux rapports, qui mettent à jour une grande partie des malversations et des irrégularités, doivent eux aussi être rendus publics. Celui de la Cour suprême a déjà été publié il y a 2 semaines. Celui du vérificateur devrait l'être très rapidement, dans les jours qui viennent. Et tout ça, c'est dans l'idée que cette démarche soit transparente et que les citoyens maliens puissent accéder à toutes ces informations.
On aura l'occasion d'en parler dans la libre antenne. Je sais que vous êtes êtes quelques-uns déjà à nous avoir envoyé vos souhaits pour débattre sur ce sujet vendredi, 33 9 693 693 70. Merci David Bachet, il nous reste 5 minutes. Je remercie évidemment Abdoulaye hein, qui nous appelait de Sikasso au Mali. Franck est avec nous, il nous appelle du Burkina Faso. Bonjour Franck.
Bonjour Romain. Bon,
vous êtes à Ouagadougou exactement. Hein. Vous avez des questions concernant l'épidémie d'Ebola?
Oui, effectivement. J'ai deux questions concernant l'épidémie d'Ebola. Donc, j'ai entendu que l'OMS a publié des statistiques inquiétantes concernant la propagation du virus d'Ebola pour compter du mois de décembre 2014.
Oui.
Donc, j'aimerais savoir d'où viennent ces statistiques et quelles sont les mesures prises par l'OMS face à ces risques, c'est-à-dire face à ces prévisions. Mmh. Relatif à la propagation du virus Ebola.
Bien sûr, évidemment, c'est vrai que les dernières projections de l'OMS sont effrayantes. L'Organisation mondiale de la santé craint une envolée du nombre de contaminations qui pourrait grimper jusqu'à 10 000 nouveaux cas par semaine à partir, comme vous le disiez, Franck, à l'instant, à partir du mois de décembre en Afrique de l'Ouest. Alors, pour vous répondre, qui de mieux placé que l'OMS, évidemment? Bonjour, docteur Isabelle Nuttall.
Bonjour.
Vous êtes directrice du département Capacité Globale, Alerte et Riposte à l'Organisation Mondiale de la Santé. 10 000 nouveaux cas par semaine d'ici la fin de l'année, c'est évidemment beaucoup plus qu'actuellement. Actuellement, on en est à 1 millier par semaine, hein, si mes chiffres sont bons. Comment vous parvenez à de telles estimations?
Alors, c'est une estimation mathématique sur la base de ce que nous observons actuellement. Depuis le début de l'épidémie, nous voyons que le nombre total de cas double chaque mois. Donc, 2000 cas en août, 4000 cas en septembre, on arrive à 8000 en octobre. Et si on continue cette courbe qui est donc exponentielle, c'est pas une ligne droite, c'est une courbe qui devient de plus en plus verticale. Vous comprenez que après 8000, on passe à 16000 en novembre et on arrive à 32000 en décembre.
Quand vous dites cas, ce sont des personnes qui ont contracté le virus, hein.
Tout à fait. Mmh. Et lorsqu'on arrive à 32 000 cas sur un mois, si l'on rapporte au niveau du nombre de cas par semaine et qu'en plus on sait que le nombre de cas qui nous sont officiellement rapportés, notifiés à ce jour est sous-estimé d'un facteur de 2, donc on sait qu'il y a à peu près deux fois plus de cas que ce qui nous est effectivement notifié, donc nous sommes très inquiets.
C'est mathématique, hein. C'est mathématique. Quelle est honnêtement, docteur Isabelle Nuttall, votre marge d'erreur?
Il y a toujours une marge d'erreur, mais je crois que ce qui est important de comprendre aujourd'hui, c'est que il faut absolument planifier pour le pire et espérer le meilleur. Nos projections sont relativement inquiétantes. Bien sûr, ça, ce serait l'évolution si rien n'était fait. Heureusement, c'est pas du tout le cas. Et ce qui me permet de répondre à la deuxième question de votre auditeur, que fait l'OMS, que fait toute la communauté internationale, les gouvernements, les populations, c'est gérer le plus efficacement possible la réponse à cette épidémie. C'est articulé selon 4 axes. Donc la première chose, c'est absolument identifier les malades. Mmh. La deuxième chose, c'est pouvoir les soigner et puis les protéger le reste de leur famille, les mettre dans des hôpitaux, des endroits où ils puissent être traités. Ensuite, engager toutes les communautés pour parler, pour comprendre qu'il y a vraiment une maladie, qu'il faut qu'on la gère tous ensemble et faire en sorte que tous les enterrements soient faits de manière sécurisée. Parce que malheureusement, le moment où la contamination est la plus forte, où les personnes sont les plus contagieuses, c'est après la mort. Et si les familles touchent le corps d'une personne décédée, le nombre de personnes contaminées est énorme. Donc, renforcement de toutes les activités, bien mettre en place les centres de santé et actuellement, comme on sait que le nombre d'hôpitaux n'est pas suffisant, nous sommes en train de voir comment installer des centres de traitement au niveau des villages avec comme objectif de protéger la population.
Et il faut au minimum 7000 lits pour accueillir évidemment tous ces patients. Merci beaucoup Isabelle Nuttall en direct de Genève, du siège de l'Organisation Mondiale de la Santé. Merci à tous de votre fidélité. D'autres questions à la rédaction évidemment demain. Vous restez avec nous dans un instant le journal et on revient dans 10 minutes pour notre débat du jour et l'expulsion du responsable du bureau des Nations Unies concernant les droits de l'homme en République démocratique du Congo.